La parole est à vous. Les agents nous parlent de leur métier.
Bonjour à toutes et à tous. En France, les services publics remplissent des fonctions centrales en matière de cohésion sociale et de transformation de la société. Les priorités collectives sont en train de muter, ou plutôt de s'enrichir de nouveaux enjeux. Tout comme moi, chers auditeurs, vous avez constaté que cela a changé, mais ce n'est pas fini. À ce jour, nous pouvons identifier un certain nombre de défis que les collectivités ont ainsi à relever dans leur fonctionnement quotidien. Mais qu'en est-il chez nos voisins européens? Pour répondre à cette question, j'ai le plaisir de recevoir M. Pierre Petit. Vous êtes directeur conseiller à la formation pour les pouvoirs locaux de Wallonie. Aujourd'hui, vous allez nous présenter les diverses adaptations auxquelles a dû faire face le personnel de votre collectivité, mais aussi plus largement les collectivités locales wallonnes. Bonjour Monsieur Petit.
Bien bonjour à tout le monde.
Monsieur Petit, avant d'aborder le sujet de l'émission, pourriez-vous nous présenter brièvement les collectivités de Wallonie à nos auditeurs et auditrices?
Certainement, donc, comme vous le savez, en Belgique, nous sommes un pays fédéralisé et donc nous avons trois régions, la région flamande, la région bruxelloise et la région wallonne. Au sein de cette région wallonne, qui est la région qui nous préoccupe, et qui est donc une linéaque francophone, nous avons 253 communes et ce qu'on appelle aussi des centres publics d'aide sociale. Il y en a un par commune, c'est-à-dire qu'il y en a également 253. Nous avons un autre degré de pouvoir qui sont les provinces, et enfin, donc il y en a 5. Et enfin, il y a 110 intercommunales. Ça représente au total environ 150 000 agents. Et donc, pour la situer, donc la Wallonie est cette terre comprise entre Bruxelles et Luxembourg, pour les situer géographiquement, ça représente environ 17 000 km² et une population d'environ 3 700 000 habitants. Voilà. Donc, je ne vais pas essayer de faire la comparaison entre le système français et le système belge, parce que là, je pense que nous aurions quelques journées pour nous y préparer. Mais je dirais que, à l'instar de ce qu'on vit en France, il y a aussi ce qu'on appelle une espèce de lasagne institutionnelle avec différents degrés de pouvoir, et il faut l'admettre, parfois des difficultés de positionner les compétences à un niveau ou à l'autre. Mais cela, ça pourrait être l'objet d'une autre discussion.
Oui, c'est peut-être un jour une émission qu'on fera avec vous. Et comme vous avez pu l'entendre, en France, les services publics sont en situation de mutation au regard de nouveaux enjeux sociétaux nécessitant d'adapter tout ou partie des modes d'administration locaux. Pourriez-vous nous dire ce qu'il en est concernant la Belgique ou tout du moins la Wallonie?
Oui, certainement. Mais je pense que, bon, vous savez tous, on a été confrontés à la Covid, cette pandémie qui nous a obligés quasi tous instantanément de passer en mode distanciel, ce qui a changé les organisations. Et on a aussi pu constater qu'il était impossible de passer en mode distanciel pour certains métiers. Mais en tout cas, ça nous a impliqué de manière, oserais-je dire, quasi universelle, à revoir nos modes de fonctionnement, et c'est un événement qui certainement a accéléré une évolution qui était, me semble-t-il, inéluctable, même si tout le monde n'y était pas encore vraiment sensibilisé ou familiarisé. Alors, on pourrait croire que cette pandémie agit un peu comme un accélérateur de la transformation, disruption numérique, parce que c'est de ça, je pense, qu'il va s'agir, c'est de pouvoir faire face dans les prochaines années aux conséquences de ces évolutions technologiques et donc particulièrement numériques. Mais donc si effectivement il y a eu peut-être une prise de conscience et s'il y a eu une accélération, on se rend compte aussi que tout dépend de la maturité de l'organisation elle-même et des moyens disponibles ou mobilisables par ces organisations. Et donc c'est là aussi où on voit qu'il y a un véritable triple risque de fracture numérique notamment, au niveau de l'organisation, mais aussi au niveau du travailleur et évidemment au niveau du bénéficiaire, particulièrement des services publics. Et donc, je vais dire que les collectivités locales, pas moins que les autres, pas moins que le secteur privé également, va être confronté à cela. Et donc, ce qui est important de se rendre compte, c'est que, bien sûr, dans cette événement qui est survenu, on s'est rendu compte de la nécessité de disposer des équipements adéquats, de dossiers numérisés, de moyens de communication en visioconférence, Bon, il est apparu également une autre évidence, c'est la nécessité d'adapter le management, parce que, ben, notamment, ben, on a travaillé sur la gestion de projets à distance, mais aussi on s'est rendu compte de toute l'importance de développer une véritable stratégie de gestion des ressources humaines. Alors, est-ce que à partir de là, on a fait le tour de tout ce qui allait nous arriver? Je pense que ce serait une grave erreur de le considérer comme tel, parce que je pense que véritablement, ce n'est que l'arbre qui cache la forêt. Car cette transformation digitale qui pointe son nez, qu'on parle de digitalisation, d'intelligence artificielle, de robotisation, de numérisation, et tous autres corollaires qui vont déferler sur l'ensemble de la société de manière intersectorielle et universelle. Et donc, je vais dire, la Wallonie n'échappe pas moins qu'aux autres, et je vais dire qu'on peut transposer ça à différents endroits du monde. Et donc, ce qui est important de souligner, et peut-être que là, il n'y a pas encore une prise de conscience suffisante, c'est que on va aller dans un monde de transformation, et de différents types, qu'elles soient sociales, qu'elles soient économiques, qu'elles soient managériale, productive, écologique, énergétique, géopolitique, on voit les délocalisations que ça peut entraîner, démographique et même éducative, parce que les méthodes d'apprentissage et d'enseignement et de formation vont évoluer. Donc, quelque part, l'intelligence digitale va se révéler un atout fort pour la société civile, parce qu'on va pouvoir sans doute rendre plus de services et rencontrer plus de préoccupations. Mais en même temps, je vais dire, ça va demander une forte adaptation des compétences et des modes d'organisation. Et donc, tout de suite là, ben, on en reparlera plus tard, certainement dans cet entretien, c'est comment pouvoir suivre, comment veiller à ce que dans la structure, l'organisation doit s'adapter, les agents vont devoir s'adapter, il va falloir s'adapter et aider aussi les citoyens à s'adapter. Voilà, je pense vraiment le défi auquel nous sommes confrontés maintenant et auquel on essaye de se préparer. Avec, ben, vous l'avez sans doute entendu parler. Ben, nous venons de vivre aussi un phénomène évidemment climatique gravissime, puisque une bonne partie de la Wallonie a été dévastée, et donc ce sont des milliers et des milliers de personnes qui sont sans logement, et donc ce sont les entités locales qui ont été au front, je vais dire, pour rencontrer cela. Alors, est-ce que c'est l'anticipation déjà de bouleversements climatiques et de transformations? Je parlais tout à l'heure de transformation climatique, ben, c'est peut-être un prémisse, ou en tout cas, c'est peut-être un élément, mais on voit aussi que là, ça implique aussi que les collectivités locales doivent réagir et sans doute devoir s'adapter par rapport à des éléments qui surviennent sans nécessairement avoir pu les prévoir.
Oui, en vous écoutant, là, il y a une autre question qui me vient. Effectivement, l'arrivée des machines ou d'avatars vocaux, de représentations autres que humaines dans les prestations de services des collectivités vis-à-vis des citoyens, il y a tout un travail de qui suis-je et que fais-je au niveau des organisations et au niveau de soi-même en tant qu'agent qui rend un service dans une collectivité. Mais il y a un pays qu'on avait réduit à de la robotique, c'est le Japon. Quand on regarde le Japon, si vous regardez la société japonaise, ils ont un rapport avec la machine, avec l'objet qui est, il fait partie de leur environnement. Ce n'est pas un objet, il a un statut social, il a une existence émotionnelle. Est-ce que c'est pas ça qu'on va devoir faire, en fait? C'est faire accepter que dans une équipe, un logiciel, c'est aussi comme un agent. C'est pour le manager. Il va remplir une tâche et il faudra le compter ça comme un membre de l'équipe en plus.
Alors, exactement. Hein, donc, il y a deux éléments dans ce que vous dites. Il y a la modification profonde des emplois dans les prochaines années. Hein. Donc, on va avoir des emplois qui vont totalement disparaître, des emplois qui vont être totalement mutés, ou des contextes d'exercice de l'emploi qui vont aussi profondément changer. Donc, c'est sûr que, par exemple, on va devoir s'adapter à des métiers qui vont muter profondément, et là, on va devoir sans doute s'orienter et orienter nos préoccupations plus fort vers d'autres types de compétences que les compétences techniques, et notamment ce qu'on appelle les compétences transversales. Et donc, dans ces compétences transversales, elles vont se situer tant au niveau du management que je vais dire, de toute la hiérarchie, ou je ne vais même pas parler des hiérarchies, de tous ceux qui composent l'organisation. Et dans cette organisation, je pense que vous avez tout à fait raison, c'est qu'on va y retrouver aussi des robots. Hein. Donc, quelque part, on va devoir travailler demain avec des robots. Quand je dis demain, ça a déjà commencé. Hein. Nous avons des hôpitaux où des accueils, des guides sont déjà des robots, hein, pour être très clair. Mais au-delà de cela, on va pouvoir dire qu'on va travailler à côté d'un robot. Donc, c'est un changement fondamental d'organisation. Mais bon, maintenant, faut-il le craindre ou autre? Je vais dire qu'il y a une chose qui est certaine, c'est qu'on peut transférer la compétence technique à un robot, mais par contre, la compétence comportementale, pas. Et donc, c'est bien une des compétences sur lesquelles on va devoir travailler dans les prochains temps, dès aujourd'hui. Et donc, je pense que la question va être aussi la question du positionnement des individus, du bien-être au travail. On peut même parler parfois du bonheur au travail. Alors, c'est vrai qu'on va devoir aborder des compétences telles que la confiance en soi, donc bien se connaître. Donc, il y a sans doute un travail qui n'a pas été suffisamment été pris en considération dans les générations passées. Donc, confiance en soi, agilité, créativité, intelligence émotionnelle, avec évidemment des compétences organisationnelles adéquates, parce que les compétences organisationnelles vont aussi ne plus être les mêmes que celles qu'on demandait auparavant. Et donc, ce sont toutes des qualités personnelles qui, quelque part, vont transformer un salarié lambda en un collaborateur efficace, agréable, et donc qui est intéressant à la fois pour l'équipe et pour la rencontre des personnes qui bénéficient des services publics. Et, je veux dire, agréable et entraînant pour le reste de l'équipe, quelque part dans une situation de bien-être au travail et de motivation, hein, parce que parfois on essaye de savoir comment on va motiver. Et moi, j'ose dire, osons même parler de bonheur au travail, même si pour certains, c'est quelque chose qui semble un peu abrupt en disant, on est là pour travailler, on n'est pas là pour se préoccuper de son bonheur. Mais je pense que c'est en fait tout un contexte qui doit être revu, des méthodes de travail. Et ce sont vraiment les enjeux de demain, avec aussi donc cette nécessité de se dire, ces emplois qui vont changer vont faire que les individus vont devoir être capables de s'adapter, de, dans un terme anglais, d'upskiller, donc d'accroître leurs compétences et d'éventuellement pouvoir retirer ces compétences et les mettre au service d'un autre poste suite éventuellement à un accroissement des compétences techniques. Mais donc, on va garder les compétences de fondamentales, comportementales, transversales. Et tout c'est un travail en permanence. Alors, la question qui se posera, évidemment, c'est la capacité des individus à pouvoir se remettre en cause et à s'adapter éternellement. Donc ça, c'est pour ça que, manifestement, nous devons être très vigilants sur ce que nous allons mettre en place. Et donc ça, c'est quelque chose qui nous arrive. Alors j'espère que la prise de conscience va se faire. Et c'est pour ça que mon message de début d'entretien était de dire, attention, le travail à distance lié au Covid, c'est pas un aboutissement, ce n'est qu'une partie qui cache tout le reste.
Effectivement. Mais là, je rebondis aussi sur une autre question. C'est effectivement, l'être humain donc va rendre un service au collectif, mais il doit être en perpétuelle évolution et faire attention à ne pas se faire déborder par l'organisation qui va aller plus loin à se l'accaparer. Il y a tout un rapport de force entre l'individu et sa vie privée, et c'est ça que le télétravail révèle. Où est la vie privée et quand est-ce que est la vie avec le collectif, le travail, quoi?
Ah oui, ça c'est clair, donc justement, et c'est là où on doit être très attentif à ce qu'on met en place.
Et le Covid a été révélateur de ça un peu.
Oui, tout à fait, tout à fait. Et de la non-préparation, et parfois de la non-préparation et du management, et je vais dire de la personne qui se trouve en télétravail. Et donc, c'est clair qu'on doit... et puis, justement, on a des changements de génération. Hein, donc, vous savez, on a cette génération qu'on appelle Alpha qui arrive maintenant, qui est née avec une tablette dans la main, oserais-je dire, hein, donc qui a une habitude de travailler, mais aussi, quelque part, qui a une autre façon de communiquer, qui a une autre façon d'apprendre, et qui a aussi peut-être des valeurs différentes, et donc notamment l'équilibre vie privée, vie professionnelle. On a vu évidemment un changement de culture important en quelques années, et je pense que ça va aller de plus en plus dans ce sens-là. Maintenant, justement, on est vraiment devant, je pense, une transformation fondamentale, une transition sociétale de fond qui touche vraiment toute la société dans toutes ses dimensions. Hein. Donc, on va pas limiter simplement la valeur du travail. On va parler de carrément toutes les valeurs qui transcendent la société. Alors, en même temps, il faut se rendre compte que tout revêt une dimension technologique. Hein. Donc, l'individu dans son rapport au temps, au matériel, au savoir, au travail, au bien-être, hein, et donc, mais aussi au niveau collectif, pour leurs croyances, leurs valeurs, les relations, les espaces, et donc, quelque part, les pratiques personnelles et professionnelles, s'informer, apprendre, consommer, créer, tout ça est en pleine mutation. Et donc, ce sont des points d'attention essentiels pour ceux qui sont amenés à être managers demain dans le service public et aussi particulièrement dans le service public local ou territorial. Et donc, ça, je pense que personne n'y échappera. Et ça, quelle que soit la taille de l'entité, quel que soit l'endroit où on se trouve, parce que quand on se réfère aux organisations, cette transformation, c'est un vrai processus de changement qui est radical et incrémental. Donc, ça veut dire que tout ce qui est cette vue, cette technologie numérique qui est utilisée intensivement, tant dans la vie professionnelle que dans la vie privée, hein, il faut en être clair. Il n'y a pas une barrière entre le moment où on est au travail et où on est dans sa vie privée. Quelque part, ça entraîne une vue un peu holistique d'une organisation, de manière, je vais dire, implicite ou délibérée, dans le but de créer de la valeur. Alors, que ce soit de la valeur par rapport à ce qui doit être produit collectivement et notamment au travail, mais que ce soit aussi de la valeur ajoutée pour les individus. D'aucuns disent que nous sommes à un changement de paradigme. Or, un changement de paradigme, c'est pas tous les 50 ans, hein, c'est pas tous les siècles non plus. Donc, on est dans une transformation et nous devons nous y préparer, nous devons nous dire que sans doute nous avons d'autres perspectives à voir que les seuls points d'attention que nous avions par le passé. Alors maintenant aussi sans effrayer, hein, parce que quand je tiens ce genre de propos parfois devant certaines assemblées, je dis « Ouh là là, on aurait mieux fait de ne pas vous entendre et de ne pas vous écouter ». Enfin, c'est l'histoire de l'autruche qui se met la tête dans le sable, hein, à un moment donné. Il faut savoir, justement, se dire, voilà quelles sont les transformations qui arrivent et comment est-ce qu'on peut s'adapter, parce que, en même temps, je trouve que l'adaptation, même par rapport à une situation telle que la pandémie, n'a pas été si mauvaise que cela, en n'étant pas si préparé que cela, même si, justement, on peut en conclure un certain nombre d'analyses qui nous permettent justement d'envisager les choses peut-être de manière plus mûre pour le futur, avec ce respect de comme vous le disiez très justement, hein, de respect de l'individu dans sa vie privée et donc cette adéquation, quelque part cette intégration de l'individu dans le collectif et inversement.
Il y a pas mal de choses à faire, pas mal d'axes de travail à lancer. Si on revenait à votre collectivité, quels sont, d'après vous, les axes de travail qui devraient être lancés ou qui sont déjà en cours dans le domaine de l'organisation du travail ?
Chez nous, très clairement, ça se double, je vais dire, d'une réflexion. Nous sommes en train de revoir, vous savez, nous n'avons pas la même fonction publique qu'en France, elle n'est pas normée chez nous, hein, en réalité. Donc ce sont des lignes de conduite qui sont déterminées. Et on est en train d'y réfléchir en Wallonie, donc le ministre en charge de cette matière s'est donné 2 ans pour y arriver. Et donc véritablement, les chantiers vont être pour moi, fondamentaux, parce que par rapport aussi, c'est quasi universel aussi, on entend parler des métiers en pénurie, des difficultés de recrutement par rapport à certaines compétences. On le sait, donc les pouvoirs publics aussi vont avoir besoin de mobiliser de compétences, de capter les compétences, donc non seulement de les déceler, de les intégrer, mais après de les capter et de les conserver. Alors, pour nous, ce qu'il faut vraiment faire, c'est justement travailler sur ce domaine-là des compétences. Et vous savez, à Davos, en 2020, moi, je trouve qu'il y a eu un changement radical dans le monde privé, qui auparavant était habitué à dire « il faut nous amener une technicité très grande pour que la personne soit directement employable ». C'est à peine de dire « il faut absolument que la personne puisse utiliser tel logiciel et que demain elle puisse servir ». Et là, il y a eu un basculement qui est de dire « mais tout compte fait, non, on doit plutôt voir quelles sont les personnes qui ont les compétences transversales que pour pouvoir exercer la tâche et peut-être alors pouvoir aussi former plus techniquement, notamment dans l'entreprise et quand on parle d'entreprise, c'est également l'administration. Donc, toutes ces compétences d'adaptation et autres vont devoir absolument être développées. Et donc, le travail que nous sommes en train de faire vraiment, c'est de dire maintenant, attention, revoyons nos modes de recrutement, revoyons nos modes de formation, revoyons nos modes d'intégration dans le travail pour que justement, on crée toute une fonction publique qui permette aux individus de s'adapter et d'évoluer par rapport à des contextes qui vont être changeants. Le système où on reste pendant 25 ans dans le même type de métier, c'est révolu déjà depuis un temps certain, et ce sera encore plus révolu demain. Et donc, il faut vraiment travailler sur les individus et les aider à pouvoir s'adapter à cela. Donc, c'est vraiment le travail sur lequel nous avons commencé, et nous commençons à travailler fortement, et c'est un travail sur lequel nous allons aussi de porte en porte, en sensibilisant, parce que, oserais-je dire, quand on est notamment dans une collectivité locale qu'on a un peu le nez sur le guidon, hein, il faut bien l'admettre, à devoir faire face à toute une série d'adaptations. Il faut bien se rendre compte que nous devons revoir nos méthodes de travail. Et cela, c'est vraiment l'enjeu fondamental que nous avons.
Est-ce à dire que, comme en France, enfin en tout cas une partie des collectivités, vous vous êtes tourné d'abord vers l'écoute de qu'est-ce qu'a besoin le citoyen, qu'est-ce qu'il veut pour vous adapter, ou c'est descendant, c'est la collectivité qui a une perception, enfin qui a comme choix, je veux rendre un service de telle façon, et le citoyen fait avec, compose avec. Est-ce qu'il y a une ouverture et une écoute du citoyen ?
C'est clair qu'il y a toute une série de mécanismes de consultation, de concertation qui sont mis en place. Parfois déjà depuis plusieurs années, hein, donc c'est pas nécessairement nouveau. Il y a des commissions consultatives un peu dans différents domaines. Il y a aussi maintenant des moyens de donner son avis de manière justement technologiquement plus avancée, je vais dire. Hein. Donc non, je pense qu'il y a vraiment un travail. On a toute une série de programmes en Wallonie qui notamment visent à associer les citoyens à la détermination de certaines politiques, avec évidemment après des choix qui doivent être faits. Et là, il y a parfois des choix aussi budgétaires. Même là aussi, vous savez, on a vu apparaître, mais c'est vrai que ce ne sont pas sur des budgets énormes, mais par exemple, les budgets participatifs, ça existe. Ou ben, ce sont des citoyens qui montent un projet, qui gèrent quelque part par rapport à un budget qui est attribué. Mais donc, c'est vrai que cette culture de l'écoute du citoyen, des besoins des citoyens, ben, est beaucoup plus grande et elle se développe de plus en plus. Mais d'un autre côté, je vais dire, on reste quand même aussi avec une vision où, en termes d'écoute et après de mise en œuvre, il y a quand même, à côté, je vais dire, de l'écoute qui se transforme en quelque part en un plan stratégique. Donc, nous, les collectivités, on a l'obligation d'établir chaque mandat un plan stratégique transversal, donc il définit quels vont être ses grands objectifs. Il concerte avec la population, il en informe la population, et puis alors ben, il faut l'opérationnaliser. Et donc l'opérationnalisation dans un plan stratégique opérationnel, là elle va relever de l'entité administrative. Hein, donc je vais faire la distinction entre le travail politique et le travail que doit avoir toute administration dans la mise en œuvre d'un certain nombre d'objectifs qui ont été définis préalablement. Avec évidemment toujours une partie d'autonomie locale, et donc je ne vais pas vous dire que tout le monde a le mode de participation citoyen le plus grand ou le plus fort. Ça, je vais dire, c'est aussi un choix politique qui ne nous appartient pas de juger quelque part.
Oui, je voulais juste faire référence au fait que chez nous, par exemple, côté français, le technicien dans l'administration avait une image de « je sais, et donc je trouve une solution ». Là, le fait de s'ouvrir aux citoyens dans les quartiers, de discuter avec, il doit accepter que le citoyen peut avoir aussi une idée que lui auquel il n'avait pas pensé, et donc la capter pour donner une solution qui n'est pas forcément que la sienne, mais qui est celle du groupe. Vous voyez là ? Voilà.
Je pense que là, vraiment, on a eu déjà une révolution des mentalités assez grande. Vous dire que c'est parfait partout, je ne le dirai pas, mais je vais dire que le temps où véritablement le technicien d'administration détenait, entre guillemets, la vérité, il est déjà révolu depuis un certain temps. Et je vous dis, notamment par rapport à toutes ces concertations, il y a des plans locaux de développement, vous voyez, où il y a quand même toute une série de...
Je vais dire, oui, je vous rejoins après sur ce que vous nous avez dit, hein. Mais... il y a eu les nouvelles technologies et les nouveaux comportements dans ce qu'elles offrent permet encore de mieux construire cette relation entre l'usager et celui qui rend la prestation. Voilà, c'est ça que je voulais dire.
C'est absolument clair, parce qu'elle permet justement plus facilement la concertation, elle permet plus facilement de faire passer l'information aussi, tout simplement. Et aussi, elle permet parfois de mieux suivre ce qui a été demandé et ce qui a été exécuté ou pas, d'ailleurs. Hein, donc, ça aussi. Hein, donc, on a toute une série même d'applications qui existent, je vais dire, qui permet aux citoyens même d'interagir pas simplement dans la demande de service, hein, mais dans le constat d'un certain nombre de réalités qui permet de réagir et d'être, je vais dire, quasi en temps réel, je vais dire, dans la communication avec à la fois son politique et à la fois l'administration. C'est pas du tout évident parce que justement il y a toute une réflexion là-dessus aussi pour ne pas laisser, je vais dire, les réseaux sociaux non plus être le seul canal d'information et parfois de désinformation.
Ouais, c'est vrai que là les outils ont un penchant à formater les comportements de ceux qui les utilisent et derrière, si on se met dans le rôle de celui qui a conçu l'outil, il faudrait avoir l'information de pourquoi il l'a conçu. Et on est plutôt usager, mais on ne comprend pas forcément la finalité de l'outil, quoi.
Mais là, vous êtes vraiment sur quelque chose qui pour moi, me fait peur à un moment donné. Donc, en fait, ces outils, ils ont été faits par des techniciens, des commerciaux. Ils n'ont pas été construits avec un contrôle démocratique, hein. Donc, ce qui
oui,
veut
oui,
dire
bien
que
sûr.
Ils poursuivent des objectifs qui ne sont pas nécessairement sous contrôle du système démocratique, quel que soit d'ailleurs le système. Et ça, c'est un enjeu. Et donc, on parlait de communication tout à l'heure, vous le savez très bien comme moi, il est clair qu'on peut aller sur les mêmes réseaux en fonction de ce qu'on sait de nous et des algorithmes. On ne va pas nécessairement nous envoyer vers les mêmes informations et vers les mêmes interlocuteurs. Alors, on croit qu'on parle au même endroit, mais on ne parle pas nécessairement au même endroit des mêmes choses. Et ça, évidemment, ça peut être un leurre démocratique.
C'est ça, tout ça pour conclure que lorsque vous avez parlé de la génération alpha, effectivement, ils sont usagers des outils, mais ils ne comprennent pas forcément la portée et comment ils fonctionnent. Ils sont usagers. Donc là, il y a un principe de précaution à avoir et pas miser tout sur parce qu'ils sont nés avec l'ordinateur ou le téléphone, alors ils savent. Ils sont usagers, mais ils comprennent pas forcément ce qu'ils font.
Donc c'est donc un problème d'éducation.
Oui, on revient à ça aussi. Bon, Monsieur Petit, notre émission touche à sa fin. Merci beaucoup pour votre témoignage et votre regard porté sur la question de l'organisation du travail à venir, voire du futur. Je rappelle à nos auditeurs que vous êtes directeur conseil à la formation pour les pouvoirs locaux de Wallonie.
Au revoir et à une prochaine. Et en tout cas, si vous passez par la Wallonie, n'hésitez pas à nous rendre visite.
Quant à vous, chers auditeurs et chères auditrices, merci de nous avoir écoutés. Vous pouvez réécouter cette émission ou la télécharger sur le site radio.cnfpt.fr. Je vous dis à bientôt pour une nouvelle émission. Au revoir.
La parole est à vous. Les agents nous parlent de leur métier.